Chapitre 6. Winston écrivait dans son journal. C'était il y a 3 ans. C'était un soir sombre dans une étroite rue de traverse, près de l'une des grandes gares de chemin de fer. Elle était debout près d'un porche, sous un réverbère qui éclairait à peine. Elle avait un visage jeune, très maquillé. C'est vraiment le maquillage qui m'a séduit. Sa blancheur, tel un masque, et ses lèvres rouges vifs. Les femmes du parti ne se fardent jamais le visage. Il n'y avait personne d'autre dans la rue, pas de télécran. Elle dit 2 dollars. Pour l'instant, c'était trop difficile de continuer. Il ferma les yeux et les pressa de ses doigts, en essayant de refouler la vision qui revenait sans cesse. Il eut la tentation presque irrésistible de crier une série de gros mots à pleine voix, ou de se cogner la tête contre le mur, de donner des coups de pied sur la table, ou jeter l'encrier par la fenêtre, faire toutes sortes de choses violentes, bruyantes ou douloureuses, qui pourraient effacer de sa mémoire le souvenir qui le tourmentait. « Votre pire ennemi, réfléchit-il, était votre propre système nerveux. À tout moment, la tension en vous peut se manifester par quelques symptômes visibles. » Il pensa à un homme qu'il avait croisé dans la rue il y a quelques semaines, un homme d'apparence assez ordinaire, membre du parti, âgé de 35 à 40 ans, grand et mince, portant une mallette. Ils étaient à quelques mètres l'un de l'autre, lorsque le côté gauche du visage de l'homme a été soudainement déformé par une sorte de spasme. C'est arrivé une autre fois, au moment où ils se croisaient. Ce n'était qu'un tremblement, un frémissement, rapide comme le clic de l'obturateur d'un appareil photo, mais visiblement habituel. Il se souvient avoir pensé à ce moment « ce pauvre diable est perdu ». Et ce qui était effrayant, c'est que le tic était probablement inconscient. Le plus grand danger était de parler dans votre sommeil. Il n'y avait pas de moyen de se prémunir contre cela, à sa connaissance. Il reprit son souffle et continua à écrire. Je la suivis à travers le porche et une cour intérieure jusqu'à une cuisine en sous-sol. Il y avait un lit contre le mur et sur la table, une lampe dont la flamme était très basse. Ses dents étaient à vif. Il aurait aimé cracher. Simultanément avec la femme dans la cuisine du sous-sol, il pensa à Catherine. Sa femme. Winston était marié. Avait été marié, en tout cas. Il l'était probablement encore, pour autant qu'il sache que sa femme n'est pas morte. Il semblait respirer à nouveau l'odeur chaude et étouffante de la cuisine du sous-sol. Une odeur composée d'insectes et de vêtements sales, un mauvais parfum bon marché, mais néanmoins séduisant, car aucune femme du parti n'en utilise jamais. Et on ne pouvait les imaginer parfumées. Seuls les prolétaires utilisaient le parfum. Dans son esprit, l'odeur était inextricablement mêlée à celle de la fornication. Son aventure avec cette femme avait été son premier écart après 2 ans environ. La fréquentation des prostituées était interdite, bien sûr, mais c'était l'une de ces règles que vous pouviez occasionnellement transgresser. C'était dangereux, mais ce n'était pas une question de vie ou de mort. Être pris avec une prostituée pouvait signifier 5 ans dans un camp de travaux forcés, pas plus, si vous n'aviez commis aucune autre infraction. Et c'était assez facile à condition que vous puissiez éviter d'être pris sur le fait. Les quartiers les plus pauvres ont essaimé des femmes qui étaient prêtes à se vendre. Certaines pouvaient même être achetées pour une bouteille de gin, ce que les prolétaires n'étaient pas censés boire. Tacitement, le parti était même enclin d'encourager la prostitution en tant qu'exutoire des instincts qui ne pouvaient pas être totalement supprimés. La simple débauche n'avait pas beaucoup d'importance tant qu'elle était furtive et sans joie et n'impliquait que les femmes d'une classe méprisée et déshéritée. Le crime impardonnable était la promiscuité entre les membres du parti. Mais bien que ce soit l'un des crimes que les accusés dans les grandes purges ont invariablement avoué, il était difficile d'imaginer qu'une telle chose puisse se produire. Le but du parti n'était pas seulement d'empêcher les hommes et les femmes de se vouer une fidélité qu'ils ne pourraient pas contrôler. Son but réel, non déclaré, était de supprimer tous les plaisirs de l'acte sexuel, Ce n'est pas tant l'amour que l'érotisme qui était l'ennemi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du mariage. Tous les mariages entre membres du parti devaient être approuvés par un comité nommé à cet effet. Et, bien que le principe n'a jamais été clairement énoncé, l'autorisation était toujours refusée si le couple concerné donnait l'impression d'être physiquement attiré l'un vers l'autre. Le seul but reconnu du mariage était d'engendrer des enfants pour le service du parti. Les rapports sexuels devaient être surveillés comme une opération mineure et peu dégoûtante, comme un lavement. Cela n'a jamais été exprimé en termes simples, mais d'une manière indirecte, on le rabâchait dès l'enfance à tous les membres du parti. Il y avait même des organisations telles que la Ligue anti-sexe des juniors qui préconisaient le célibat pour les deux sexes. Tous les enfants devaient être engendrés par insémination artificielle, artsem, comme on l'appelait en novlangue, et élevés dans des institutions publiques. Winston savait que ce n'était pas avancé tout à fait sérieusement, mais ce genre de concept s'accordait avec l'idéologie générale du parti. Le parti essayait de tuer l'instinct sexuel, et si cela ne pouvait pas être tué, de le déformer et de le salir. Il ne savait pas pourquoi il en était ainsi, mais il semblait naturel qu'il en soit ainsi. En ce qui concerne les femmes, les efforts du parti ont été largement récompensés. Il repensa à Catherine. Il devait y avoir 9, 10, près de 11 ans depuis leur séparation. C'était curieux qu'il pensât rarement à elle. Pendant des jours, il était capable d'oublier qu'il avait été marié. Ils étaient restés ensemble seulement une quinzaine de mois. Le parti ne permettait pas le divorce, mais il encourage plutôt la séparation dans les cas où il n'y avait pas d'enfant. Catherine était une grande fille blonde, très droite, avec des mouvements splendides. Elle avait un visage audacieux, aquilin, un visage que l'on aurait pu qualifier de noble jusqu'à ce que l'on découvre que derrière, il n'y avait presque rien. Très tôt dans sa vie conjugale, il avait décidé, mais peut-être était-ce seulement parce qu'il la connaissait plus intimement, qu'elle avait sans exception l'esprit le plus stupide, le plus vulgaire et le plus vide qu'il avait jamais rencontré. Elle n'avait pas une pensée qui ne soit pas un slogan. Et il n'y avait pas une imbécilité absolument aucune dont elle n'était pas capable d'avaler si le parti le lui suggérait. Il la surnommait secrètement la bande-son humaine. Pourtant, il aurait pu supporter de vivre avec elle s'il n'y avait eu précisément le sexe. Dès qu'il la touchait, elle semblait reculer et se raidir. L'embrasser était comme embrasser un mannequin de bois articulé. Ce qui était étrange, c'est que même quand elle semblait le serrer contre elle, il avait l'impression qu'elle le repoussait en même temps de toutes ses forces. C'était la rigidité de ses muscles qui produisait cette impression. Elle restait allongée, les yeux fermés, sans résister ni coopérer, mais soumise. C'était extraordinairement embarrassant et au bout d'un certain temps horrible. Même alors, il aurait supporté pourtant de vivre avec elle s'il avait été entendu qu'il y avait entre eux une séparation de corps. Mais, assez curieusement, c'est Catherine qui avait refusé. Il devait, disait-elle, procréer s'il le pouvait. Ils insistèrent une fois par semaine, de manière assez régulière. Quand ce n'était pas impossible, elle le lui rappelait le matin même comme quelque chose qui devait être fait le soir et qui ne doit pas être oublié. Elle avait deux noms pour cela. L'un était « faire un bébé » et l'autre « notre devoir envers le parti ». Oui, elle avait effectivement utilisé cette expression. Très vite, il commença à éprouver un sentiment de frayeur chaque fois que le jour fixé revenait. Heureusement, aucun enfant n'apparut et à la fin, elle accepta de renoncer à essayer. Bientôt après, ils se séparaient. Winston soupira sans bruit. Il reprit son stylo et écrivit. Elle se jeta sur le lit. Et aussitôt, sans aucune sorte de préliminaire, de la manière la plus grossière et la plus horrible possible que l'on puisse imaginer, remonta sa jupe. Il se vit là, sous la faible lumière de la lampe, avec l'odeur des insectes et du parfum bon marché dans les narines, et dans son cœur un sentiment de défaite et de ressentiment qui, même à ce moment, était mêlé au souvenir du corps blanc de Catherine, figé à jamais par le pouvoir hypnotique du parti. Pourquoi devait-il toujours en être ainsi ? Pourquoi ne pourrait-il pas avoir une femme à lui au lieu de ces méchantes catins à des années d'intervalle ? Mais une véritable histoire d'amour est un événement presque impensable. Les femmes du parti étaient toutes semblables. La chasteté était aussi profondément ancrée en elles que la loyauté au parti. Par un soigneux conditionnement précoce, par des jeux et par de l'eau froide, par les déchets qu'on leur faisait manger à l'école et chez les espions et la Ligue de la Jeunesse, par des conférences, des défilés, des chants, des slogans et de la musique martiale, le sentiment naturel avait été chassé en elle. Sa raison lui disait qu'il devait y avoir des exceptions, mais son cœur n'y croyait pas. Elles étaient toutes imprenables, comme le parti voulait qu'elles le soient. Et ce que Winston voulait, plus encore que d'être aimé, c'était de briser ce mur de vertu, et même si ce n'était qu'une seule fois dans la vie. L'acte sexuel accompli avec succès était une rébellion. Le désir était un crime de la pensée. Même d'avoir réveillé les sens de Catherine, s'il avait pu y parvenir, aurait été comme une violation alors qu'elle était sa femme. Mais le reste de l'histoire devait être écrit. Il poursuivit. J'ai allumé la lampe. Quand je l'ai vue dans la lumière... Après l'obscurité, la faible lumière de la lampe à pétrole avait paru très brillante. Pour la première fois, il a pu voir la femme correctement. Il avait fait un pas vers elle et puis s'était arrêté, plein de désir et de terreur. Il était douloureusement conscient du risque qu'il avait pris en venant ici. Il était tout à fait possible que les patrouilles l'attrapent en sortant. À bien y penser, il pourrait attendre devant la porte en ce moment. S'il s'en allait sans même faire ce qu'il était venu faire ici, il devait l'écrire. Il fallait l'avouer. Ce qu'il avait soudain vu à la lumière de la lampe, c'était que la femme était vieille. Le maquillage était si épais sur son visage qu'il semblait pouvoir se fissurer comme un masque de carton. Il y avait des mèches blanches dans ses cheveux, mais le détail vraiment horrible est que sa bouche, qui s'était un peu ouverte, ne révélait qu'une noirceur caverneuse. Elle n'avait pas de dents du tout. Il écrivit à la hâte, avec une écriture brouillonne. Quand je l'ai vue dans la lumière, c'était une sacrée vieille femme de 50 ans. Mais j'allais de l'avant, et le fis tout de même. Il pressa de nouveau ses doigts contre ses paupières. Il l'avait enfin écrit, mais cela ne faisait aucune différence. La thérapie n'avait pas fonctionné. L'envie de crier des mots grossiers à tue-tête était aussi violente que jamais.